Jalal Harchaoui, bonjour.
Bonjour.
L'Égypte a récemment menacé d'intervenir en Libye si les forces du GNA, le gouvernement d'union nationale soutenu par la Turquie, poursuivaient leur avancée vers l'est du pays. Après cette escalade verbale, doit-on craindre, selon vous, une escalade militaire?
Il y a une forme d'escalade militaire qui a déjà eu lieu et elle a été mise en œuvre par des acteurs qui ne sont pas l'Égypte. L'Égypte est très inquiète. Je ne suis pas en train de dire que c'est un coup de bluff, le vote du Parlement. Mais il y a quand même une conscience au Caire que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Égypte d'entrer dans une guerre sans fin en envoyant son armée de terre dans la ville de Sirte. Donc ça, ce n'est pas réellement d'actualité. Et une des raisons pour lesquelles elle peut se permettre de ne pas le faire, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait surtout par les mercenaires russes qui ont un petit peu devancé le jeu en installant des snipers, en installant des systèmes de défense anti-aérienne, sans aucun doute financés par les Émirats arabes unis, et surtout le fait d'avoir planté des centaines et des centaines de mines antipersonnelles en violation évidemment de toutes les conventions humanitaires. Donc cela a rendu, si vous voulez, la ville de Sirte, l'a transformée en une espèce de piège extrêmement sanguinaire, hein, si jamais les forces du gouvernement d'entente nationale décide de s'aventurer sur ce territoire.
Vous parlez de la ville de Sirte. On se souvient qu'en juin, le président égyptien avait fait de Sirte une ligne rouge, hein, menaçant ouvertement
Voilà.
d'intervenir si les forces du GNA franchissaient cette ville ô combien stratégique.
Ce qu'on a vu dans la presse, c'est surtout le bruit rhétorique qui a été émis par le président Sissi et l'Égypte. La raison pour laquelle il pouvait comme ça annoncer une ligne rouge, c'est parce qu'il savait que d'autres acteurs que l'Égypte avaient déjà fait un certain montant de travail tout à fait efficace et concret. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Égypte n'ira pas du tout. Je pense que l'Égypte va intervenir sur le sol libyen, mais pas forcément pour se lancer dans la gueule du loup, mais surtout pour se concentrer sur la partie est de la Cyrénaïque, hein, celle qui intéresse l'Égypte parce que ça longe la frontière libyo-égyptienne, et aussi parce qu'il n'y a pas l'ennemi, pour renforcer sa sécurité, et aussi pour venir modeler la coalition de Haftar, pour qu'elle soit prête à survivre à la disparition de Haftar. Parce que Haftar est quelqu'un qui a été fortement décrédibilisé par l'écroulement, l'échec de son offensive à Tripoli. Et les Égyptiens sont les premiers à vouloir s'en débarrasser, sauf qu'ils savent que ça doit être fait d'une manière très transitionnelle, très graduelle, et être présent sur le territoire de l'est de la Cyrénaïque faciliterait ce travail de remodelage qu'ils entendent faire.
Est-ce que la prochaine grande bataille aura lieu justement dans cette ville de Sirte? Vous semblez visiblement un petit peu en douter.
Non, je pense qu'il y a une forme de bataille, mais ce n'est pas le choc des titans qu'on pourrait soupçonner. Ce n'est pas un choc entre l'Égypte et la Turquie. Ce n'est même pas un choc entre l'Égypte et le gouvernement d'entente nationale de Tripoli. C'est plus le choc entre le piège qui a été tendu par les Émiratis et les Russes, qui attend donc des troupes relativement naïves qui pourraient s'aventurer et tenter une offensive terrestre dans cette ville qui a été truffée de pièges et de bombes et de mines. Et donc ça va pas être une bataille facile, ça va être une bataille lente qui va coûter la vie à des centaines et des centaines de Libyens, si elle a lieu.
À quel jeu jouent les États-Unis dans ce conflit, Jalal Harchaoui? On les a dit proches du camp Haftar, mais ce mois-ci, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont annoncé vouloir collaborer plus étroitement afin de promouvoir une stabilité durable en Libye. On a un petit peu du mal à suivre là.
Vous avez raison d'avoir du mal à suivre, parce que les Américains ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas une véritable politique libyenne. Il est clair que le gouvernement d'entente nationale, par rapport auquel la France n'a jamais eu véritablement de sympathie, est une créature de l'administration Obama. Et quand Trump est arrivé en janvier 2017, il a finalement, par inertie, continué à soutenir plus ou moins le gouvernement d'entente nationale. Sauf à la fin 2018, début 2019. Il a, sous la pression et le lobbying des Émiratis, dans une moindre mesure des Égyptiens, mais surtout les Émiratis, ils l'ont convaincu que la solution Haftar, plus musclée, plus virile, plus violente, mais certes soi-disant plus efficace, allait marcher. Le président Trump, on sait tous que c'est quelqu'un qui est un retourneur de veste, c'est quelqu'un de très transactionnel, qui a toujours pas mal aimé un autre président populiste qui s'appelle Erdogan, et il lui a donné une chance. Et donc cette idée que la Turquie serait partie à l'aventure d'une manière aussi massive en Libye sans le consentement des États-Unis est une une idée absurde. Évidemment, la bénédiction américaine est absolument cruciale pour comprendre l'audace et l'affirmation turque qui a tant choqué la France cette année. Et aujourd'hui, il y a une tendance de la part des Américains de dire, bon ben finalement, il y a suffisamment de Turquie en Libye, peut-être qu'il faudrait ajouter à la sauce mayonnaise un peu plus d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'essayer de trouver une espèce d'équilibre. Je dirais que les États-Unis sont moins pro-turcs aujourd'hui, fin juillet 2020, qu'ils l'étaient en janvier, par exemple.
Jalal Harchaoui, merci.